Alors, frères et sœurs, nous avons la joie de fêter cette belle et grande fête de l'Épiphanie, la lumière qui brille et qui se manifeste et qui se répand. Au fond, ces mages, ils sont intéressants parce que c'était des gens assez calés, sans doute, fins connaisseurs dans leur domaine, on peut dire des scientifiques qui observaient la création, mais des scientifiques particulièrement intelligents, parce qu'ils avaient compris que leur propre connaissance n'était pas une finalité, mais qu'elle pouvait les ouvrir sur quelque chose ou sur quelqu'un d'encore plus grand. Ces scientifiques, ils cherchaient quelque part la signature du Créateur dans la création. Ils attendaient un signe de Dieu. Aussi, lorsqu'ils trouvent, lorsqu'ils perçoivent ce signe, ils le suivent, ils y vont. Et ça, c'est assez frappant pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous, devant le signe de Dieu, nous sommes capables d'y aller? Devant tous les petits clins d'yeux qu'il y a dans nos journées, et il y en a plein, est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on y va? Pas toujours. Ces temps-ci, on fait une expérience un peu particulière dans la paroisse, on va vous en parler et vous en reparler, vous inquiétez pas, c'est les petits groupes de maison qu'on va vous inviter à lancer pendant le carême. Tous, là, potentiellement, vous allez être hôtes d'un petit groupe de maison, ça va être magnifique. Tout le monde se dit, oh non, pas moi, mais pourquoi pas finalement, peut-être vous aussi. Et vous invitez pour quoi? Vous invitez pour un goûter, un thé, un bon gâteau, et pour passer un moment gratuit avec des gens que vous connaissez. C'est-à-dire, on prend un temps ensemble convivial, on veut partager en profondeur. Et pour vous aider à partager, on vous fournit un petit témoignage vidéo. Et quand j'explique ça aux paroissiens, tout le monde me dit, ah ben alors il faudrait d'abord nous montrer les vidéos. Ben justement non. Ceux qui organisent ce parcours qui s'appelle New Pastoral disent surtout non, personne regarde les vidéos avant. On les voit en même temps que tout le monde. Vous êtes hôte, vous n'êtes pas responsable du groupe et tout le monde découvre en même temps. Et ben j'ai remarqué à quel point c'était perturbant pour les paroissiens de ne pas avoir la main sur le truc, de ne pas connaître par avance. Mais vous, Jésus, il dit pas « vois et viens ». Il dit « viens et vois ». Et les rois mages, c'est ce qu'ils ont fait. Ils y sont allés et ils ont vu. Ils y sont allés en sachant, en ayant l'espérance de voir. Mais ils ont, au début, il y a un pas dans la confiance, quoi. On y va. Voilà, ça c'est peut-être leur première qualité. Et puis, ensuite, cette étoile, elle les conduit jusqu'à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, l'étoile disparaît. Sans doute que pour les mages, c'était logique. Ils arrivent devant cette grande ville de Jérusalem, eux ils cherchent ce nouveau roi des Juifs qui vient de naître, et bien ils se disent, c'est logique, c'est dans cette capitale. Et ils vont au palais des rois, et là qu'est-ce qu'ils trouvent? Rien, il n'y a pas l'enfant, il n'est pas né dans le palais des rois. Et ils vont faire même une expérience, une double expérience à Jérusalem très intéressante. C'est que le pouvoir et la connaissance, non seulement ne nous aident pas forcément à aller vers Dieu, mais peuvent même nous en éloigner radicalement. Je m'explique. À Jérusalem, autour d'Hérode, il y a des spécialistes, des scribes, qui connaissent très bien l'Écriture, l'Écriture sainte. Ils citent le prophète Michée, et ils ont raison. Ils interprètent le prophète Michée, et ils ont tout juste, pas une erreur. Ils prédisent parfaitement l'endroit où ça doit arriver. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'y vont pas. Un peu la caricature du théologien, de celui qui a acquis une somme de connaissances sur la Bible et même sur Dieu, mais qui n'a pas de relation avec Dieu, qui ne vit aucun amour avec le Seigneur. Ça n'est pas la foi. Et puis il y a Hérode. Hérode, lui, c'est son pouvoir. Cramponné à son pouvoir, attaché viscéralement à son trône. Quand on lui dit qu'un roi doit arriver, il voit Dieu immédiatement comme un concurrent. Et donc lui, s'il veut voir l'enfant, c'est pas du tout pour l'adorer, c'est pour l'éliminer, tout simplement. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? Frères et sœurs, la connaissance. Vous voyez, dans les petits groupes de maison, on nous a expliqué que à chaque fois qu'un petit groupe de maison meurt, c'est souvent à cause de quelqu'un qui a des connaissances. Le pire, nous a-t-on dit, c'est quelqu'un qui a fait un diplôme à la Cato. le prenez pas mal, hein, s'il y en a parmi vous. Mais on nous a dit, ça c'est terrible. Parce que c'est des gens qui du coup arrivent en disant, alors voilà, je vais enseigner. Surtout pas, tais-toi. Tu vas pas enseigner, tu vas partager ce que tu vis dans ton cœur. Pas tout ce que tu as engrangé dans ta tête. Et donc, attention à notre connaissance qui peut nous faire penser qu'on serait supérieur aux autres, qu'immédiatement on aurait quelque chose à apporter. Non, on a quelque chose à partager, ce qu'on vit là dans notre cœur, cette relation d'amour. Bien sûr que les connaissances, elles éclairent tout ça. Mais voyez, il y a un savoir qui nous met au-dessus des autres et même au-dessus de Dieu. Il y a certains théologiens qui ont l'impression qu'ils ont Dieu sous la main et que Dieu est un objet d'étude. Alors devant de tels tyrans, Dieu se retire immédiatement. Et ces gens-là n'ont aucun contact avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut faire de la théologie qu'à genoux. Se reconnaître petit devant Dieu. Et puis le pouvoir, frères et sœurs, est-ce que nous aussi, consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas dans notre cœur la tentation de se dire qu'au fond, il ne faut quand même pas trop lui laisser de place, parce que sinon, nous, on ne va plus en avoir. Cette tentation d'imaginer que Dieu serait un concurrent de notre liberté, qu'il faut quand même faire un peu ce qu'on pense nous, parce que franchement, si on fait toujours ce qu'il pense lui, ça ne va pas aller. Peut-être que c'est un peu dans nos cœurs et dans nos têtes. Et pourtant, vous le savez, comme moi, si on faisait toujours la volonté du Père, on serait pleinement libre, mais vraiment libre, en profondeur. Les mages, ils continuent. Eux, ils ont le cœur et l'intelligence ouvertes. Parce qu'ils suivent cette étoile, ils arrivent devant un enfant, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas un grand discours intellectuel en disant « Mais nous, attendez, on a de la science, on va vous expliquer tout ça. » Non! Ils reconnaissent cet enfant, aussi avec leur intelligence, bien sûr, et avec leur cœur, et ils se prosternent devant lui. Magnifique. Vous voyez, les mages, ce sont des êtres complets. Cœur, intelligence, volonté, tout est engagé au service du Seigneur, et ils viennent l'adorer, se prosterner devant lui. À la fin de cette messe, ce qu'ils veulent, on vous propose de faire le même geste devant l'enfant de la crèche. Si vous voulez, vous pouvez venir vous prosterner devant lui, tout simplement. Et notre corps entraîne aussi notre cœur. L'inverse est vrai aussi, mais voyez, le corps, c'est aussi quelque chose qui nous aide à entrer. D'ailleurs, les êtres que vous aimez, j'espère que d'une certaine manière, vous leur montrez aussi par votre corps les gestes d'amour qu'on peut poser, qui sont importants. Eh bien, vis-à-vis du Seigneur, c'est un peu la même chose. Quand vous vivez la messe, vous êtes invité aussi à vous impliquer dans votre corps pour l'adorer par tout ce que nous sommes. Et ça, c'est important. Ça fait l'unité de notre vie. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons la grâce pour chacun d'entre nous d'éclairer nos intelligences et de l'ouvrir à ta présence, d'éclairer aussi nos cœurs, que nous puissions te reconnaître et t'adorer en esprit et en vérité. Amen.